Mercredi 13 octobre, 18h sur La Grenouille, c'est la 5e émission consacrée à Small is Beautiful, cet événement organisé par lieu public, des spectacles, des parcours, des performances en espace public à Martigues, à Marseille et à Aubagne qui ont débuté le 5 octobre dernier et qui se termineront ce dimanche 16 octobre à Saint-André. Ce soir, nous sommes en compagnie de membres éminents du Tony Clifton Circus. Alors, comme leur nom ne l'indique pas, ce sont des Italiens. Ils viennent dans le cadre de Small is Beautiful pour une création mondiale de Mission Roosevelt. Donc, leur nouvelle création, ça se fera au Bagne vendredi et samedi qui viennent. Tony Clifton Circus, on les a déjà vus pas mal à Marseille. Ils étaient déjà dans la première édition de Small is Beautiful avec Rubbish Rabbit. Et ils étaient revenus ensuite dans Tendance Clown pour montrer Rubbish Rabbit il y a 2 ans. Et l'année dernière, ah non, cette année, c'était cette année au printemps. Tendance Clown.
Oui, c'est avec Christmas Forever.
Avec Christmas Forever, le suicide du Père Noël.
Ouais.
Le Tony Clifton Circus, Cirque de l'Anomalie, c'est un trio. Il y a Danesi De Luca, Jacopo Fulghi et Enzo Palzoni. Ce soir, nous sommes en compagnie de Jacopo Fulghi et de Francesca Corona, qui, elle, s'occupe de la production, de la diffusion et de la communication du Tony Clifton Circus. Alors Jacopo, Francesca, le Tony Clifton Circus vient souvent à Marseille. Il y a un lien particulier avec cette ville qui s'est créée. Comment ça se fait, Jacopo?
Ouais, on commence par dire que Marseille c'est très très belle, et nous plaît beaucoup. Toutes les fois qu'on arrive, on dit c'est super. C'est un peu pour nous, c'est un peu comme un peu Rome avec la mer dans la ville. Ça plaît beaucoup. Mais à part ça, ouais, on nous a trouvé des bonnes relations avec les gens qui font des trucs ici. Donc nous avons eu la chance de porter notre travail ici plusieurs fois.
Alors à Marseille et en France aussi, le Tony Clifton Circus tourne beaucoup en France, travaille beaucoup en France. Francesca, il y a un lien privilégié avec la France aussi. Je crois que c'est depuis 4 ou 5 ans.
Oui, ça fait plus ou moins 5 années qu'on est beaucoup en France, beaucoup plus qu'en Italie, on dirait. Mais sans vous ennuyer avec la situation italienne, mais quand même c'est un peu difficile de travailler en Italie. Il y a plusieurs problèmes par rapport à la création culturelle en général. Donc on a trouvé en France des bons partenaires pour travailler ici. On a aussi un collaborateur qui s'occupe de la diffusion, particulièrement en France, qui s'appelle Alexinis. Et donc oui, ça fait... On a commencé un peu comme ça à l'arrache. Amener ici avec la fourgonnette en essayant d'aller au festival. Et après, c'est bien passé. Les professionnels ont commencé à voir notre travail, ils ont commencé à nous appeler et à nous payer. Et donc, on est là.
Et les premières fois, c'était quoi? C'était Small is Beautiful à Marseille ou...
Non.
Non,
la première fois que nous sommes arrivés ici en France pour jouer, c'est 2003. Parce que nous, en Italie, on jouait déjà notre spectacle Rubbish Rabbit, pendant lequel on va jouer avec des poupées Barbie, on va couper des poupées Barbie. Et donc, c'est parce qu'un jour, en été, en Italie, un garçon est venu chez nous et a dit « Ah, vous avez copié ça de Mazout et Neutron ». Et moi, jamais connu Mazout et Neutron, jamais vu rien de ça. Et il m'a dit « Moi, je vais aller à Aurillac, vous voulez voir ça ». Donc, nous avons pris la fourgonnette, nous sommes allés à Aurillac, et nous avons joué 2003. Là-bas, les spectacles. Pour l'occasion, j'ai donné à les garçons de Mazout et Neutron un DVD avec les spectacles déjà gravés comme ça.
Et qu'est-ce qui explique le succès du Tony Clifton Circus en France, selon vous?
Qu'est-ce qui explique?
Le succès du Tony Clifton Circus en France. Les Français aiment bien qu'on coupe les Barbie en deux, qu'on frappe les peluches.
C'est pas clair pour moi, de toute façon, c'est pas clair. Pour l'autre côté, je crois qu'il y a un peu une fascination exotique pour l'étranger, pour la différence. Et après, à niveau de langage, vous avez un système d'activités culturelles, de développement d'activités culturelles très, très efficace. et en même temps c'est un peu efficace, en même temps très classifiant. Je veux dire, il donne des...
Il y a des catégories.
Exactement. Très, 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 très bien structuré. Donc, je crois, la question que nous sommes un peu entre la possibilité de cataloguer un spectacle, une expression artistique, c'est pour ça que peut-être vous aimez bien.
Francesca, tu veux dire un mot là-dessus ?
Mais oui, je crois que oui, la question de la réception du système culturel français, ça, c'est important dans cet enjeu-là. Et oui, moi je suis d'accord parce qu'on est un peu, on n'est pas théâtre des roues, on n'est pas vraiment des clowns. Et en fait, les choses que j'ai vues ici, on est un peu, c'est vraiment vrai qu'on est une anomalie. Donc ça, je crois que c'est très, peut-être plus fort ici qu'en Italie. Parce que quand même en Italie, le fait qu'il y a moins de structures qui s'occupent des cultures quand même si développées, ça fait qu'il y a plusieurs anomalies en Italie. Et donc, ici, c'est plus fort. Ça casse plus, c'est moins évident. C'est moins évident d'avoir une compagnie qui est entre l'état contemporain et l'état de roue, qui est entre l'incursion urbaine et le terrorisme. C'est un peu... Cette chose-là, je crois que c'est plus rare ici. Peut-être que c'est ça. Ça fait partie de ça.
C'est aussi parce que j'ai vu, parce que je connais de la France, j'ai vu, par exemple, moi, je viens dans un parcours de clown classique. Et de toute façon, ce que j'ai fait ici avec Tony Clifton Circus, pour moi, c'est du clown, c'est du bouffon. Et pour quelqu'un qui fait vraiment du clown à fond ici en France, qui vient d'une école de clown, qui fait du clown classique, ça, c'est pas du tout clown. Pas du tout. C'est rien à voir. Donc ça, c'est fait un signal bien fort.
C'est un peu l'insolite qui intéresse. On va faire une pause avec une première chronique signée Espace Sonore. Donc, comme à notre habitude, Espace Sonore ouvre ce magazine en quelque sorte avec sa chronique sonore. C'est un groupe, une compagnie qui présente un peu pain pour deux à la gare Saint-Charles depuis hier mardi jusqu'à demain jeudi. 2 minutes de son à écouter à la gare Saint-Charles sous un parapluie.
Théoriquement, les gens doivent prendre une douche, savonner. Ça, c'est la théorie.
Mais normalement, c'est douche, savonnage complet, parce que même sans être sale...
Est-ce que tu es à jour de tes vaccins?
Un petit peu de transpiration, de peau.
Si on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose, ce qui est mon cas, ils demandent
normalement se savonner pour...
Non. Pas encore la douche.
On peut y aller, si elle est bonne pour la peau.
Une prise de sang mensuel.
Les bactéries...
Si elle était là, elle disait non.
Virus. On est obligé de s'enfermer dans les poussées.
Monitoring.
On lave jamais les cheveux.
Mais... Ça sent mauvais, c'est l'hygiène.
C'est désagréable.
C'est ça et ce n'est pas ça.
Alors, il y a eu une étude qui a été réalisée et qui mettait en avant que respirer... L'ambiance chlorée quand on est tout petit, c'est quand même pas terrible.
Il y a des petits bras qui ont été comblés comme ça, autour de la boucle de Saint-Maur, bon, puis ça se fait à pas mal d'endroits. Il y a des bras qui ont été comblés pour agrandir la surface au sol.
On a totalement et durablement modifié la notion de ce qu'est une rivière.
Il y a des choses qui font que ça modifie la rivière et qu'après il peut y avoir des dégâts. C'est comme ça qu'on en arrive à
une rivière.
Fil en aiguille, il y a des inondations.
C'est un tuyau, la rivière aujourd'hui, pratiquement. Et à partir de là, on est sur des logiques qui sont très très différentes de celles d'une rivière naturelle. On a fabriqué un milieu artificiel d'une certaine façon. On a endigué ses crues. C'est l'essence d'une rivière, la crue. Ça nettoie, ça modifie, ça fait en sorte qu'on a des zigzags, que l'eau aille doucement, on a des zones humides qui sont dans l'eau.
On a créé un milieu naturel, mais c'est un milieu artificiel quelque part. Donc on essaye de recréer un milieu naturel, mais c'est quand même quelque chose d'artificiel à la finale.
C'est à l'aspect de...
Aval tout cru.
Quand on laisse pas la nature faire ce qu'elle veut, finit toujours par le reprendre.
Ascaridias, dengue, diarrhée, dragnulose, fluorose, choléra, polio, teigne, gale, cystosomiase,
dioxine,
trachome,
cancer,
phycocéphalose,
mutation génétique à long terme.
Jacopo Fulghi et Francesca Corona font partie du Tony Clifton Circus et nous passons ce magazine Small is Grenoutiful en leur compagnie. Ils sont là pour présenter Mission Roosevelt, une création mondiale du Tony Clifton Circus à Aubagne vendredi et samedi. Alors on parlait juste avant la chronique sonore d'Espace Sonore de liens privilégiés qu'avait le Tony Clifton Circus avec Marseille et avec la France où ils travaillent beaucoup. Vous avez montré tous vos spectacles en France ou c'est vraiment des spectacles particuliers qui sont venus?
Nous avons montré pas tout. En Italie, nous avons fait plusieurs performances, on peut dire 6 spécifiques, et ça sont resté toujours plutôt en Italie.
Et vous allez vous installer en France alors avec tout ce succès français?
Non.
Vous restez en Italie quand même, malgré la situation difficile?
Pour l'instant,
oui. Beh, on peut faire base en Italie et venir travailler en France ou n'importe où. Mais quand même, pour vivre, l'Italie, ça reste encore un pays plus ou moins agréable.
Alors, la situation culturelle, on peut en dire deux mots. En Italie, Francesca, c'est vraiment si terrible qu'on dit?
Oui, oui. Ben, je crois que c'est aussi difficile à l'expliquer à un Français. Parce que c'est vraiment un système complètement différent. Ou mieux, c'est qu'en Italie, ça n'existe pas vraiment un système culturel lié au spectacle vivant. Et en fait, je ne sais pas, il y a un particulier que pour moi, ça raconte beaucoup, qui la dernière loi sur les spectacles vivants, c'est du 45. Et après, on est allé en avance comme ça, avec des petites modifications. Donc les catégories qui racontent le spectacle vivant sont complètement vieux, qui racontent rien des choses qui se passent en Italie. Et la chose quand même qu'il faut dire, qu'il y a un niveau de créativité et de vraiment un niveau lié au spectacle vivant qui est très très haut en Italie, malgré tout ça. La chose c'est que quand tu n'as jamais l'argent pour travailler, c'est quand même, ça fatigue beaucoup. Donc des fois, les compagnies, même s'ils ont un niveau très haut et envie de faire, ça fatigue, ça fatigue un peu.
En France, il y a de moins en moins d'argent public pour la création et l'État demande de plus en plus aux artistes, aux compagnies, tout ça, de se tourner vers le privé. Est-ce que l'argent privé, ça marche en Italie pour les artistes?
Et l'argent privé en Italie, ça marche plutôt pour les gros événements. Parce qu'évidemment, ils ont un retour au niveau des communications et pas vraiment dans les choses plus indépendantes ou dans les choses un peu plus petites. Et donc, oui, pas énormément. Quand même, les rapports entre la France et l'Italie, je crois que c'est plus ou moins que l'État italien dépense un décime, on peut dire un décime de...
Un dixième.
Un dixième, merci, de l'argent que la France dépense pour la culture. La culture en général, pas seulement le spectacle vivant. En Italie, on est 0,3 de tous les budgets, je ne sais pas comment, du PIL, je ne sais pas si on dit PIL en France aussi. Oui, c'est les produits internes.
Ah oui, le PIB, le produit intérieur brut.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, et en Italie, c'est le 0,3, et je crois qu'en France, on est plus ou moins au 3%. Donc c'est ça les rapports.
La différence est assez.
Ouais.
En même temps, ça fait un peu comme une sélection naturelle, c'est-à-dire que si tu veux faire ça, tu as besoin d'être bien motivé.
Oui, tu dois avoir vraiment envie
de faire ça.
Envie, ouais.
Parce que c'est difficile d'être là et dire oh, ça va.
Mais c'est pas agréable, c'est pas confortable.
Je suppose qu'il y en a certains qui ont super envie, super motivés, mais qui...
Il n'y arrive pas, bien sûr, bien sûr.
Oui, il y a aussi pas mal de gens qui font plusieurs travails, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de nos collègues qui vivent avec qui ça, vivent ça, c'est pas qui...
Vous êtes basé où? Vous êtes à Rome?
À Rome.
Ouais. En plus, c'est une ville où tout tourné vers le patrimoine, l'Antiquité, la Renaissance, tout ça. La création n'a pas beaucoup de place dans cette ville là-bas, non?
Il y a des places, mais il y a toujours, comme on s'est dit, Il y a à la base beaucoup de difficultés en relation à l'argent, à l'espace pour travailler, à les travail, pour, surtout pour le public, pour avancer avec le public, pour développer un discours sur le public. Et ça touche beaucoup sur la question des théâtres des rues. Nous, avec un spectacle qu'on joue ici, dans la rue, dans un contexte des théâtres des rues, on joue en Italie plutôt dans un festival de théâtre expérimental.
Théâtre contemporain.
Ou multidisciplinaire, donc c'est-à-dire qu'il y a des trucs à l'intérieur, à l'extérieur, donc un peu un niveau un peu différent. Et ça, parce que vous en France, vous avez fait un grand travail sur les publics, sur la proposition artistique, vous avez pris une distance surtout dans la rue, dans le concept événementiel, vous dites comme ça, non, je crois.
Événementiel,
vous avez pris vraiment une direction qui est différente. Et là, surtout pour la rue, c'est beaucoup. Le travail, c'est plus long, c'est différent.
Et du coup, pour le Tony Clifton Circus, mais j'imagine pour beaucoup d'autres artistes italiens aussi, les perspectives de développement, ça doit être pas mal lié à l'Europe aussi, non ? Parce qu'il y a la France, mais il y a aussi toute l'Europe. Le Tony Clifton Circus tourne beaucoup en Europe aussi ?
Nous avons commencé comme ça. C'est-à-dire qu'à la base, nous avons essayé avec les Théâtres des Loups, c'est un réseau qu'on connaissait déjà, et nous n'avons pas trouvé l'espace. Après, nous avons essayé aussi avec les théâtres expérimentaux parce qu'en même temps, nous avons fait des contemporains. Nous avons travaillé avec les théâtres contemporains, avec d'autres compagnies, avec d'autres projets. Et là aussi, nous n'avons pas trouvé grande place parce que la comicité, c'est un peu. C'est pas vraiment très, très, très.
Surtout quand on a commencé, parce que maintenant, ça a changé aussi.
Quand on a commencé, ouais, à l'époque, il y avait des difficultés. Ouais. Donc, pour ça, nous avons dit ouais, on va à l'étranger. Nous avons commencé avec l'Espagne, nous avons tourné pas mal de 12 années. Et après, nous avons fait une année beaucoup, un peu partout, un peu plutôt sauvage. Un peu, ouais. Donc, oui, c'est travailler beaucoup pour l'Europe.
Et maintenant, il y a des réseaux européens que vous trouvez qui sont structurés, qui vous aident beaucoup pour.
Maintenant, c'est 3 années plus ou moins qu'on travaille beaucoup, beaucoup en France. Et c'est très bien, mais en même temps, vous faites en programmation beaucoup d'avance. Et donc après, commence à être un peu compliqué d'être dans autre.
C'est comme oui, si
la saison, surtout pour la saison de l'été, c'est ça. Pour la question des théâtres de rue, des théâtres urbains, la saison d'été va être réglée beaucoup d'avance. Et les week-ends sont clairement les jours plus chauds et ça commence à être compliqué de penser d'autres.
Mais pour l'instant, oui, on a bien profité de l'accueil de la France. Et ben, évidemment, on aime bien aussi voyager, voir autres pays et tout ça. Mais, donc, on doit commencer aussi à faire un peu une petite stratégie et se partager entre la France et les autres pays, ou quand même essayer des autres pays. Bien. Et quand même, ça c'est une chose qui ça passe beaucoup parmi les compagnies de théâtre contemporain italien qui. Il se pense, on peut dire comme ça, il se pense dans l'Europe et pas seulement parce que de l'Italie, soit au niveau de la production, soit au niveau de la diffusion, c'est difficile. Donc on est vraiment obligé à se penser comme une compagnie européenne.
On va se retrouver avec Jacopo et Francesca après une nouvelle chronique. On parlera plus précisément de leur façon de faire du clown aujourd'hui dans la rue et puis de leur rapport aux objets qu'ils ont souvent tendance à massacrer et de leur rapport au public qu'ils ont souvent tendance à inquiéter. Laurent Petit, il a un aspect un peu clown aussi, il fait de la psychanalyse urbaine depuis vendredi dernier. Il nous délivre ses petits diagnostics du Grand Marseille et du Grand Pas Marseille. Et bien, il continue ce soir, on l'écoute.
Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de la psychanalyse urbaine du Grand Marseille, qu'on a baptisé le Grand Pas Marseille, pour bien montrer que ce projet n'est pas fortement apprécié par les villes avoisinant Marseille, puisqu'elles imaginent en ce moment un projet qui s'appellerait le Grand Pas Marseille. On a donc étudié la ville d'Aubagne, hein, dans le cadre de l'opération Aubagnol, puisque Marcel Pagnol est originaire de cette ville. Et on a été fasciné par le fait que c'est un peu la championne de France de démocratie participative. On est allé chercher les origines d'un tel engouement pour la vie citoyenne, mais on s'est aperçu que c'était, dès le XVIe siècle, une ville de pénitents. En sachant que Aubagne s'est inspiré des premiers pénitents de la région, les pénitents bleus, qui habitaient Marseille, qui étaient chargés de secourir les veuves des marins qui avaient perdu la vie en mer. Enfin, ils aidaient la famille. C'était vraiment sympathique de leur part. Et les Aubaniers ont inventé le concept de pénitent blanc, puisque c'est une ville coupée de la mer, donc ils aidaient plutôt les veuves des paysans abandonnés, ou bien ils aidaient carrément les malheureux, les morts. Ils encadraient les enterrements pour faire de ces moments, les enterrements des moments de fête. Très vite, il y a eu 1000 pénitents blancs, ce qui fait qu'ils ont inventé des scissions. Il y a eu une centaine de pénitents noirs. Et vers le XVIIe siècle, il y a eu une confrérie des pénitents gris qui faisait un peu la synthèse entre les pénitents noirs et les pénitents blancs. Et je vous rends compte que vers le XVIIIe siècle, à Aubagne, il y avait 6000 habitants, il y avait au moins 1200 pénitents. Il y avait au moins un pénitent par famille. En plus, quand ils allaient travailler pour aider les pauvres, les malheureux, ils mettaient des grandes capuches blanches, donc ça ressemblait un peu aux membres du Ku Klux Klan. Mais c'était un Ku Klux Klan, pas pour faire du mal, mais pour aider les gens. Et aujourd'hui, il y a encore cette dimension pénitente qui est très forte. Hein. Bon, c'est là qu'on a même imaginé que Aubagne pourrait être une ville pilote au niveau de la démocratie participative, de la vie civique, avec un pénitencier, un lieu où seraient rassemblés les pénitents. Et ça, sur la place des Santons, la place des Santonniers, parce que c'est des gens qui, encore aujourd'hui, vendent des figurines en plâtre à une époque où le Playmobil fait des ravages, donc c'est quand même un secteur en train de disparaître. Donc, autant anticiper en réinvestissant cette place des Santonniers avec des stands de pénitents. Il y aurait bien sûr des pénitents, il y aurait des gris, des blancs et des noirs, mais il y aurait aussi des pénitents rouges qui essaieraient de convertir les gens au communisme, des pénitents verts qui apprendraient par exemple les gens à trier leurs déchets, il y aurait des pénitents roses qui essaieraient de s'allier avec les rouges et les verts pour, par exemple, contrer les pénitents bleus qui seraient de l'autre côté de la place et à qui personne ne voudrait parler parce qu'ils seraient bleus, ils seraient un peu marseillais. Et puis, il y aurait des pénitents oranges qui seraient au milieu et qui ne sauraient pas quand choisir, alors qu'il y aurait des pénitents jaunes qui essaieraient de s'infiltrer dans les pénitents, par exemple, verts et roses pour dire du mal. Enfin, ça créerait de la vie civique, ça créerait du débat et ça pourrait être le cadre d'un... On pourrait imaginer dans ce pénitencier qu'il y a un mouvement de pensée qui s'appellerait Force Up, pour avenir, abnégation et altruisme, et le tout s'inscrivant dans un concept de CCCP, c'est Centre de Connaissances Communes Partagées lié au passé communiste d'Aubagne, et ça s'inscrirait dans un concept plus grand, large encore, de City pour Centre International de Tourisme Intelligent. Et Aubagne pourrait contribuer à relancer la vie civique et la vie participative en France et dans le monde entier.
Toujours avec Jacopo Fulghi et Francesca Corona du Tony Clifton Circus, qui sont italiens, comme leur nom ne l'indique pas. Alors d'où vient ce nom, Tony Clifton, Jacopo ?
Alors, Tony Clifton, c'est un caractère d'un comédien américain qui s'appelle Andy Kaufman. Et nous avons utilisé ce nom-là parce qu'à l'époque, nous avons commencé à travailler avec Nicolas ensemble pour la formation de Tony Clifton Circus. Tombait très bien parce que, comme pour Andy Kaufman, Tony Clifton, c'est un peu les caractères, les personnages pour faire les trucs un peu mauvais, un peu noirs, un peu... la côté noire des comédiens, pour nous, pareil. À l'époque, tout ça, c'est parti à la base pour un besoin de faire un truc pour nous, pour les plaisirs, pour retrouver les plaisirs de notre travail. Parce qu'à l'époque, moi, je viens d'un parcours de clowns plutôt classique, cirque, jonglage, tout ça. Nicolas, plutôt, à l'époque, travaillait beaucoup avec les enfants aussi. À l'époque, ouais, on jouait bien, on avait on fait plusieurs spectacles, on gagne bien, mais nous ne sommes pas trop on ne s'amuse pas assez, nous ne sommes pas trop contents. Donc on a dit, nous sommes rencontrés par hasard pendant un spectacle, pendant une actuation, un spectacle. Et s'est dit, pourquoi pas, on va essayer de faire un truc ensemble pour nous, juste pour nous. On ne pense pas au public, on ne pense pas à vendre, on ne pense pas à la production, on ne pense pas à rien, on pense juste à nous, pour trouver nous, notre place idée d'être là sur la scène.
Et ça a été quoi alors, le premier ?
Et le premier, c'est un spectacle qui s'appelle Oula Doll. Rabbit Rabbit, enfin, c'est un extra de Oula Doll, de le spectacle de salle d'Oula Doll. Et c'est un spectacle qui s'est changé beaucoup pendant les années. Et c'est, ouais, il y avait, c'est pas, c'est vraiment changé beaucoup. Et donc à l'époque, nous avons commencé avec Tony Clifton Circus, parce que c'est pas moi et Nicolas, mais c'est Tony qui nous a appelé pour commencer ce travail là. Donc c'est pour ça que nous avons, l'histoire de Andy Kaufman tombé très bien pour notre histoire, et nous avons utilisé les mêmes noms aussi, parce que clairement nous sommes bien, nous aimons bien la comicité d'Andy Kaufman et tout ça, clairement. C'est un hommage.
Qu'est-ce qui devient Andy Kaufman aujourd'hui ?
Plus ou moins ?
Andy Kaufman aujourd'hui, il continue.
Andy Kaufman, il est mort.
Ah, il est mort, d'accord.
Ouais. C'est pour ça.
J'ai pas compris. Alors, sur le site du Tony Clifton Circus, il y a. En page d'accueil, y a tout un texte qui explique un peu l'esprit dans lequel travaille le Tony Clifton Circus, ce que tu viens de nous dire. Et ça finit par « avec tout notre amour et un brin de haine aussi ». Alors, c'est de quel amour s'agit-il et de quel brin de haine s'agit-il vis-à-vis du spectateur ?
Ouais. À la base du travail et de notre volonté, c'est un point, peut-être la réflexion plus présente, c'est que nous sommes on va partager un même espace, que la rue ou un salle de théâtre, avec des gens qui sont là pour nous voir. Et on croit vraiment que ça, c'est un peu un surplus de spectacle vivant, d'être là tout ensemble dans le même endroit. Donc de faire à la base un truc ensemble, de partager un moment ensemble de notre vie. Et donc l'histoire de l'amour de l'haine, c'est un peu ça. C'est un peu, on cherche un peu de toucher les gens qui sont là, de laisser un peu un contact plutôt avec les gens là.
La rue, enfin l'espace extérieur, l'espace urbain, c'est venu dès le premier travail avec Nicolas.
Nous, tous les deux, on vient d'un parcours, comme je te dis, des clans classiques, et on jouait beaucoup de la rue.
Ah bon, d'accord. Ouais.
Et ouais. Aussi de la salle, avec aussi d'autres projets de compagnie contemporaine.
Alors, dans ce même texte-là, en page d'accueil, la volonté, c'est que les éclats de rire restent en travers de la gorge du public. Donc, quel type de relation vous essayez de construire avec le public ?
La relation avec le public, c'est... tout début, il n'y a pas la quatrième
mur.
Mur, ouais. Ouais. Donc, c'est une relation vraiment directe. Donc, ouais, on commence directement par détruire sa dimension. Donc, il y a un contact direct. Et nous, on base tout la relation entre la possibilité d'être très, très vrai, mais en même temps très faux. On cherche toujours de laisser un morceau de possibilités pour penser que c'est vraiment tout vrai, tout possible, mais en même temps peut-être que non. Dans les spectacles, on dit de Oula Doll, on dit tous les spectacles c'est créé comme ça. Il y a un qui arrive au théâtre et dit on fait comme ça, et l'autre dit pourquoi, et l'autre répond pourquoi pas. Et donc, pourquoi pas ?
Ouais, ça reste ouvert à l'inattendu, à l'accident, ouais. Et choses comme ça. Ouais. Et à l'inquiétude aussi des spectateurs. Hein. Moi, j'ai pu assister à Rabbit Rabbit. Et c'est vrai qu'on a toujours, on craint toujours que quelque chose nous tombe un peu sur le coin de la figure. On se sent un peu pas très sécurisé dans le spectacle. Et d'autant plus que vous malmenez un peu les spectateurs, mais vous malmenez aussi beaucoup des objets. et des objets qui sont souvent en référence à l'enfance. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce rapport à l'enfance ?
Mais tout ça s'est passé vraiment... C'est un point qui est arrivé après. C'est-à-dire que quand nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons cherché des trucs pour nous amuser. Et pendant tout ça, au théâtre, nous avons utilisé des objets, des poupées, tout ça. Et donc, nous avons trouvé là-bas, nous avons rappelé à nous que quand nous sommes enfants, nous faisons des trucs comme ça. Tous nous avons fait ça, nous avons brûlé des poupées ou des pétards, ou fait des trucs, on peut dire, un peu...
Ah bon ben, Francesca, ou... oui
ben, oui, un peu, oui.
Ah, d'accord. Mais,
moi, je peux dire que pour le spectacle, moi, j'utilise, comme tu sais, j'utilise des Barbies. Ouais. Que je coupe, je boue, ouais. Tout ça. Ouais. Et la majorité des Barbies, moi, je l'achète au marché. Ils sont des enfants qui vendent les Barbies. Ouais. Ils sont partout le monde. Ils sont aussi souvent en France, je l'achète. Ouais. Et si tu achètes les Barbies dans les enfants, tu regardes, tous les Barbies sont tout colorées, coupées, fait des tatouages, brûlées.
Avec les coupes aux cheveux.
Oui, oui, oui. Donc, c'est un truc que...
Mais c'est aussi, Barbie, c'est aussi une icône de la société de consommation, tout ça. Donc, est-ce que derrière cette idée de massacrer des objets comme ça, bon, tu vas en voir avec l'enfance en particulier, mais est-ce qu'il y a une idée un peu de critique comme ça de...
Oui, la critique, c'est plutôt centrée sur la question que sont des actions, des attitudes humaines qui, après, quand tu deviens plus grand, sont interdits ou de toute façon sont pas corrects, mais sont une démonstration, un esprit de ta liberté, de ta possibilité d'être comme tu veux. Et c'est plutôt ça. Après, la réflexion sur la consommation, sur tout ça, c'est, on dit, un deuxième degré.
Ouais.
C'est vient après.
Ouais, c'est une relation à l'enfance, pas une enfance mièvre, quoi. Une enfance un peu sauvage, un peu libre comme ça, pas encore formatée, ouais. Par les...
Tu sais, quand tu fais l'école, ouais. Quand tu as 15 minutes de liberté dans la cour de l'école, là c'est la liberté, là c'est l'énergie.
Comment ça naît un spectacle du Tony Clifton Circus ? Comment ça naît un spectacle du Tony Clifton Circus ?
Comment ça naît, comment ça va oui, sortir ouais. Dans l'année, il y a pris différentes directions, différents côtés. De toute façon, on cherche toujours des parties dans les plaisirs, des plaisirs d'être sur la scène, des plaisirs de faire une action, des plaisirs... On cherche d'essayer de partager notre plaisir avec les gens qui sont avec nous.
Mais il y a une idée à la base pour démarrer quelque chose
Ouais, il y a une idée à la base. Il y a des intuitions qui sortent souvent dans les voyages en fourgonnette. On parle, on note, on fait déposer et après, ils sortent, les idées vont sortir et on travaille dessus.
Dans Rubbish Rabbit en particulier, les autres, je ne les ai pas vus. Il y a l'idée aussi un peu de provocation de la part de Tony Clifton Circus. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette idée de la provocation
Là-bas, la provocation, c'est surtout parce que c'est plutôt pour relation à la figure du clown et la figure du théâtre des roues ou de le spectateur qui sont... vraiment bien carré, donc d'habitude les gens qui voient un clown s'attendent ça, mais pas plus. Donc c'est déjà, donc il y a comme un frein à la prévention à ton émotion.
D'accord, donc là il s'agit de déstabiliser.
Exactement, la provocation c'est juste de toujours changer les limites de la possibilité un peu plus loin.
La parole est très importante aussi dans Rubbish Rabbit. Je crois que c'est Nicolas qui il parle tout le temps,
Tout le temps.
C'est genre bonimenteur de foire. Comment c'est venu cette parole comme ça ?
C'est son style, c'est son outil. Comment je peux dire ? C'est son
outil. Ouais.
Ouais. Ouais. Moi, si on pense des trucs comme ça, moi, je pense plutôt à des actions, des bruits, des sons, des objets, des images. Et lui, plutôt.
Ouais,
des
voilà.
Mots.
On dit que Nicolas c'est le cerveau et Jacopo c'est les pieds, c'est ça ?
Ouais. Quelqu'un a écrit ça, ouais.
Quelqu'un a écrit ça.
Ouais.
D'accord. Et le rôle de la musique dans le spectacle, parce que là, dans Rubbish Rabbit, elle est jouée en live.
Ouais.
Alors
ouais,
c'est un mec avec une banane qui arrive, on s'attend au rock'n'roll déchaîné, et puis finalement, on a de la musique d'ascenseur.
Ouais, il y a Enzo, le maître Enzo Palazzoni, c'est un ami à moi. Tout début, nous avons un trio de musiciens, après il arrive Enzo. Oui, la musique, c'est très important pour nous. De toute façon, quand on commence à travailler, il y a des idées, des images, des idées et des tests. Il y a aussi comme un bande de son déjà préparé. Il y a des leads, des tubes des mois qui donnent un peu le rythme de l'action, qui donnent des suggestions, des couleurs, des... Ouais, la musique c'est très important pour
moi. Mais là dans Rubbish Rabbit c'est un contre-pied quoi. Il y a comme on dit au cinéma, il y a un horizon d'attente quand on voit le mec avec sa banane et sa guitare arriver quoi, qui est tout de suite déçu.
Ouais, et en plus la musique qu'il va jouer c'est sans musique donc c'est ouais, c'est la musique à lui et c'est composé par lui donc
On va faire une pause musicale italienne avec Adriano Celentano. On en profite, attends.
Ouais,
voilà. Et on reprendra la discussion avec Jacopo et Francesca du Tony Clifton Circus. Après cette pause musicale et après aussi la chronique de Nicolas Mémin qui va également nous proposer ce soir une promenade du jour.
Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation. Solo un caffè, gli stadi sono greviti, ma la grana dov'è? Svalutation, ah, yeah, yeah. Svalutation, yeah. Ma siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va. Ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle tation, nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. Quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me.
Écoutez la grenouille, c'est Small is Grenoutiful, magazine imaginé en partenariat avec Lieu Public à l'occasion de Small is Beautiful qui se déroule à Martigues, à Marseille et à Aubagne depuis le 5 octobre dernier jusqu'au 16 octobre prochain. Des performances, des spectacles, des parcours en espace public dans toutes ces villes. Nicolas Mémin est un montreur d'ours en béton, un urbaniste gonzo. Sa promenade du jour est à la plaine.
Je vous amène là où j'habite. Donc moi je suis Bobo Premier, le débile en pantalon orange. Vous demandez aux gens du quartier, ils me connaissent. Je vous amène à la Plaine Cour Julien, qui est l'acropole marseillaise. C'est cette colline dont on a du mal à descendre. Il faut descendre pour travailler. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, il faut que je descende de ma colline. Et c'est à chaque fois bien dur de le faire, puisque je pense à mon retour où il va falloir que je monte sur la colline, c'est fatigant. Donc on a plutôt tendance à y rester entre nous sur cette colline. Et entre nous, c'est qui ? Eh ben, c'est les gens intelligents de la ville. Nous habitons là, entre la Plaine et le cours Julien. C'est notamment la plupart des intermittents. Entre deux mi-temps, dans les phases inter, ils habitent là pour des histoires d'immobilier moins cher qu'à Paris et de connexion facile par TGV. On a le métro jusqu'à la gare et puis cette espèce de gros RER jusqu'à la gare de Lyon à Paris qui nous permet d'avoir des petites commandes de temps en temps pour continuer à payer nos loyers pas trop élevés à la Plaine Cour Julien. Et alors, quoi faire et que voir ? Donc, c'est le musée le musée du TAG à Sierre. Vous en avez des très beaux en ce moment. C'est le système des trois rues qui relient la Plaine et le cours Julien, qui sont Bussy l'Indien, Crudère et Pastoret, qui sont trois rues perpendiculaires au cours Julien qui vont vers la Plaine. Je vous défie de trouver laquelle est le chemin le plus court, il n'y en a pas. Je pense que c'est vraiment un système très retors de labyrinthe. Vous n'avez pas de chemin direct, il n'y a que des chemins tortueux, il n'y en a pas un plus court que l'autre. Alors musée de la peinture à ciel ouvert en ce moment, par exemple rue Bussy l'Indien, vous avez le restaurant qui fait l'angle avec le cours qui s'est entièrement repeint avec une espèce de fond de vague à la Hokusai sur couleur chocolat, donc vague sur chocolat, pas mal. Il y a eu des nouveaux tags très grands pochoirs signés C215, des grands portraits pleins de vie. Le réfugié communiste cubain avec des dents cassées, le gamin de 10 ans qui a fait un sale coup, qui est habillé en anorak et puis qui rigole bien. Donc voilà, alors c'est le côté musée du TAG à ciel ouvert. Mon préféré, alors je vous le donne, hein, mon préféré, il est rue des Trois Mages au niveau du numéro 11, je crois. C'est un panneau fait en tomette marseillaise collée au mur. Vous savez, ces carreaux de sol hexagonaux collés au mur sur lesquels il y a un dessin émaillé. Il s'agit d'une grande barque à rames dans laquelle on a une dame noire avec des cheveux blancs, une dame blanche avec des cheveux noirs et une dame mélangée noire et blanche. Et tout le monde rame. Donc vous voyez cette histoire de matériaux pavé marseillais, la tomate marseillaise, plus l'histoire de on est tous mélangés mais en même temps on rame, donc c'est vraiment une connaissance historique de nous étions la ville de l'arsenal des galères. Je pense que c'est vraiment une des œuvres qui parle le mieux de la ville. Encore un caractère du quartier, c'est que ce n'est pas un quartier à lui-même, mais c'est la rencontre de plusieurs quartiers. C'est la rencontre du premier arrondissement avec les quartiers Thiers et Noailles, qui sont alors Noailles très popu et Thiers plutôt classe moyenne aisée. Le 5e arrondissement qui arrive jusqu'à la Plaine, alors là c'est vraiment classe moyenne, hein, c'est mamie à chien, faut le dire, hein, c'est comme ça. Vous avez le 6e arrondissement qui arrive jusque là, c'est Notre-Dame-du-Mont, et donc le 6e c'est plutôt la bourgeoisie marseillaise, avocat, intellectuel. Et en fait, ce quartier, la Plaine Cour Julien, c'est là où tout se mélange, toutes les classes sociales, les différentes manières de voir, se mélange de manière assez, assez pacifique finalement. Hein, ça gueule, il y a deux meurtres par an, pas plus, tout va bien. Et puis vous avez des trucs assez symptomatiques de ça, par exemple le club des supporters de l'OM, là, les Marseille Trop Puissant. Marseille Trop Puissant, c'est exactement ça, c'est vous avez des gens très dangereux qui y vont, des espèces de grandes gueules prêts à tout casser, mais là ils sont en groupe et il faut se comporter un petit peu, il y a des grandes gueules plus grande que les autres qui calment un peu tout le monde. Et finalement, ça désamorce la violence. Un avant-dernier point, c'est que pour faire les courses, on a l'embarras du choix. Ils se battent tous pour que nous venions là-bas. Donc il y a de tout. Il y a le Spar pour les gens plutôt classe en bas mais qui veulent de la qualité. Il y a le Omnivore pour ceux qui veulent vraiment des trucs très très bas, c'est type Leader Price, etc. Puis la nouvelle mode, c'est les supermarchés pour célibataires qui écoutent de la techno dans leur iPhone. Alors c'est le City Market rue des Trois Frères Barthélémy. Très très fort, vous n'avez que des portions individuelles de trucs bio avec des recettes très exotiques. C'est difficile de manger pour pas cher là-bas. C'est la rue des Trois quelque chose aussi, donc c'est très difficile de s'y retrouver. Vous avez la rue des Trois Frères Barthélemy, rue des Trois Rois, rue des Trois Mages, et je vous propose de débaptiser la rue Poggioli pour l'appeler la rue des Trois Poggioli. La rue Saint-Michel deviendrait la rue des Trois Michel, comme ça on serait vraiment... vraiment perdu dans notre petit labyrinthe. Et enfin, ne venez pas nous embêter, on est le quartier le plus agréable de Marseille. Si vous venez, il y aura trop de monde et il va falloir qu'on partage, donc surtout venez, mais ne restez pas longtemps.
Small is Beautiful, les Tony Clifton Circus sur les 3 à 8, Jacopo Fulghi et Francesca Corona. On va donc parler de Mission Roosevelt qui va être en création mondiale à Aubagne ce vendredi 14 et ce samedi 15 octobre. Alors, création mondiale à Aubagne, mais je crois que le spectacle s'est travaillé ailleurs.
Mais on a fait plusieurs, plusieurs résidences pour arriver à... à vendredi, prête. Et donc, on a fait une résidence à Marseille, que c'était la dernière avant d'arriver ici, en mai. Avant, on a fait une résidence à La Paperie, à Angers. Et la première, c'était proche de Montpellier, c'était la Telline. Oui, c'était la Telline. Et donc, on a fait ces trois résidences. Après, on a travaillé soit à Paris, soit à Rome, avec Diane, qui c'est l'autre interprète de Mission Roosevelt, Diane Bonneau, ensemble à Jacopo Fulghi.
Ah oui, il n'y a pas Nicolas dans celle-là.
Non, il n'y a pas Nicolas, il n'y a que Jacopo et Diane Bonneau, qui c'est la première fois qu'ils travaillent avec Tony Clifton Circus. Parce qu'on avait besoin d'un acteur français, et Jacopo, quand il a commencé à penser à cette performance, avait pensé à une femme, plutôt. Et donc, on a travaillé avec Diane. Et donc on a fait aussi des moments de création hors résidence à la maison pour travailler sur les textes, pour faire des choses sans besoin d'avoir les outils. Et à Marseille, on a fait un essai en mai, c'était pas la création aboutie, mais quand c'était déjà un peu avancé, on a fait un essai à Marseille au Vieux-Port.
Donc Mission Roosevelt, c'est un commando de fauteuils roulants qui va envahir la ville d'Aubagne. Alors, l'idée de départ, c'était quoi? C'était l'envie de se moquer des handicapés?
Non.
Comment ça?
L'idée de départ, c'est... Ouais, de à la base de toutes les créations que nous avons faites, c'est un peu... C'est une idée qui est un peu universelle. L'idée de nous avons utilisé les fauteuils roulants aussi par autre performance spécifique. Nous avons compris qu'il y avait une puissance dedans logée. C'est-à-dire qu'il y a c'est l'interdit, c'est impossible de toucher, c'est la mauvaise sorte, c'est le symbole de la différence, c'est pas moi, c'est toujours les toilettes de notre personne, les parkings de notre personne. Il y a un pouvoir de loger. Seulement de toucher là, c'est d'être là-bas dessous, il y a un truc qui est très fort. Donc l'idée c'est évidemment dans tous ces projets là, il y a un côté de sensibilisation si tu veux pour la vie des personnes qui vivent toujours dans les fauteuils roulants, mais nous sommes pas du tout intéressés de toucher les thèmes handicap, nous sommes pas du tout intéressés de faire des réflexions ou de travailler sur ce thème là parce qu'il n'y a pas besoin. Le moment qu'on invite quelqu'un qui est toujours capable d'utiliser son jambe, de traverser la ville et faire des actions, une aventure avec un fauteuil roulant, c'est déjà clair qu'il y a une valeur dedans. Il n'y a pas besoin de
ouais. Mais ça continue un peu dans l'idée, je crois, de désacraliser un peu les choses, parce qu'avec le suicide du Père Noël, un peu le Père Noël, ou même la Barbie dont on parlait tout à l'heure, il y a une idée de désacraliser un peu des objets qui sont devenus comme ça un peu mythiques.
Oui, c'est ça un peu, mais en même temps, c'est tout ça, la Barbie, le Père Noël, les fauteuils roulants, sont des trucs qui sont universels. Par tous les mots, on comprend les significations.
C'est aussi des objets sensibles.
Ouais.
C'est ça, ce sont des tabous. Donc, c'est amusant de voir la réaction du public et de gens à cette À cette, oui, je crois, c'est, on peut dire objet sensible. Oui,
objet sensible, c'est le goût des de tabou, la possibilité de détruire un tabou, de toucher un objet interdit. J'imagine qu'il y a. Je sais, parce que j'ai passé beaucoup de temps à penser dessus et faire des tests. La majorité des personnes n'ont jamais touché un fauteuil roulant. Et...
Voilà, donc ce qu'il faut dire, c'est que ce sont les spectateurs. Alors, je ne sais plus si on peut les appeler comme ça. Vous vous dites dans la présentation du spectacle, vous n'êtes plus des spectateurs, donc ce n'est pas un spectacle. Ouais. Ce sont les gens qui vont venir voir le Tony Clifton Circus, qui vont s'asseoir dans ces fauteuils roulants.
Oui, c'est à la base, la mission Roosevelt, c'est une mission secrète pour 20 spectateurs qui sont convoqués dans un endroit secret avec un mot de pas. À suivre, il y a une explication de la mission et à suivre, il y a la mission avec les fauteuils roulants. Donc, c'est qu'il y a un parcours, c'est vraiment un projet qui se va créer vraiment sur l'espace public, exactement. Donc c'est un super site spécifique parce que c'est toujours ça change. Et dans ces parcours-là, on cherche de donner des émotions à les gens qui sont sur les fauteuils, à les gens qui sont dans la ville et qui rencontrent les gens sur les fauteuils par hasard.
Oui, parce que voilà, il y a des gens qui sont dans la ville comme d'habitude et qui vont voir débouler toute cette bande en fauteuil roulant et faire des choses, on imagine, plus ou moins catholiques, puisque...
On est italien.
Sont, les moments sont très différents. Il y a, c'est ça un peu la particularité aussi des projets et la difficulté en même temps parce qu'il y a un public qui s'est prévenu, qui connaît qu'il y a une performance, donc il vient pour voir ça. Après, il y a la ville qui ne connaît rien, peut-être la majorité qui donc, tombe pour hasard sur la peloton des fauteuils roulants. Après, les gens qui sont sur les fauteuils roulants, qui donc sont des performeurs, mais en même temps sont des spectateurs, viennent pour regarder un truc, pour essayer un spectacle. Et donc, les mélanges et tout ça, il fait un peu une alchimie un peu qu'on va tester à Bagne.
Et comment vous avez dessiné le parcours que va suivre la mission Roosevelt alors?
Moi, plutôt que les parcours, j'étais pour raconter plutôt comment je suis arrivé à la fin de tout ça. J'ai pensé, ça, c'est un objet mauvais, c'est un objet interdit, c'est un objet tabou, mais même top, c'est un peu les poussettes des enfants. Quand je suis petit, je me rappelle jamais beaucoup quand mon père me donne les caddies pour faire les cours. Ou quand je suis petit, avec les amis, on fait toujours des petits chariots. Donc les fauteuils roulants, c'est prêt. C'est déjà prêt. Mais jamais personne n'a touché ça. Donc j'ai commencé un peu en enquête pour trouver des côtés positifs à loger fauteuil roulant. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont sur les fauteuils roulants pour différentes raisons, pour demander leur... quand dans votre vie vous avez pensé « Ah, je suis content que je suis avec mon fauteuil aujourd'hui » pour différentes raisons. Donc j'ai cherché beaucoup de la positivité des logés. Et à la fin, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de positivité. Il n'y a pas du tout de positivité. Et j'ai trouvé plutôt que la foi des logés, c'est en relation avec les autres. Moi, j'ai pensé beaucoup sur ça, j'ai écrit, j'ai cherché, j'ai parlé avec les personnes. Et au moment que je devais essayer de sortir de ma maison avec mon fauteuil, je me salis un peu de plus, j'ai pensé, putain, mais non, les gens en face à les bâtiments me regardent, que je sors avec les fauteuils, va penser qui ça quoi. Et moi-même, que j'ai fait ça pour le travail, c'est mon recherche. Moi, pour une première, j'écoutais très fort la peur, les terreurs des festins. Et donc, il y a vraiment le regard de l'autre sur toi et de toi sur l'autre, c'est vraiment, là, c'est sur un univers.
Alors, tout à l'heure, on parlait des festivals et en particulier de la période d'été où c'était très soutenu. Mission Roosevelt, c'est déjà réservé pour des festivals l'été prochain, tout ça, non?
Non, mais c'est Roosevelt, il sort, c'est la première maintenant. Ouais. Et après, il y aura Pantin.
Il y aura Pantin, oui. Qui c'est l'autre partenaire qui est déjà intéressé, qui vient voir la performance au bain. Donc on va voir si après la performance est encore intéressante, mais on espère. Et donc pour l'instant c'est ça, et à partir de la semaine prochaine on commence à diffuser un peu les informations sur Mission Roosevelt, parce qu'on n'a rien maintenant. C'est difficile aussi de parler de ces projets parce que pour l'instant c'est... Il faut qu'ils se patientent sur les projets parce qu'on n'a pas de photos, on n'a pas de vidéos. Donc, on va commencer après aussi en voyant si nous plaît le faire. On doit voir beaucoup de choses parce que c'est vraiment c'est la première fois qu'on fait une chose qui dépend comme ça du public. Yeah. Donc on a vraiment, évidemment, on a tout calé, les parcours, la partie qui est à nous, mais c'est vraiment c'est
ça
un
va
point
dépendre,
d'interrogation. Ouais. Oui.
Beaucoup yeah. des gens qui vont oui. s'asseoir dans les fauteuils oui, oui, et des ça. Gens qui vont les voir arriver.
Oui, c'est ça.
Il y a une grande partie de la mission qui est dans les mains des gens qui sont sur les fauteuils. Donc, il y a une variabilité de l'action qui sont oui. vraiment...
Oui, c'est très fort. Très fort. Très fort.
Et les enfants peuvent venir à Mission Zolt?
Quand nous avons c'est pas interdit.
C'est pas interdit, oui. Interdit.
Quand nous avons fait un essai à la papyrie, ils sont venus en famille entière, père, mère et
deux garçons, oui.
Et c'est à la fin, c'est passé que c'est vraiment difficile de dire aux garçons, arrêtez-vous. C'est
oui, parce
fini.
Qu'ils s'amusent beaucoup, ils s'amusent beaucoup. Ouais.
Il faut un peu de force quand même pour...
Ouais. Oui, mais ils sont légers, donc c'est...
Ouais, non,
il y a les fauteuils pour les enfants aussi.
Oui, oui. De toute façon, c'est un peu physique. C'est pour ça ouais. que les parcours sont bien calibrés sur la possibilité de faire ça.
Parce qu'il faut être entraîné. C'est très, très fatigant d'aller sur la fauteuil. Ouais, donc, ouais. On a dû... comment dire,
trouver
caler un peu
caler
sur,
la, ouais. sur la possibilité de quelqu'un qui n'a jamais fait ça, trouver donc un parcours que c'est possible pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça.
Merci beaucoup Jacopo Fulghi et Francesca Corona du Tony Clifton Circus d'avoir passé ce moment avec nous. Alors on met juste un point d'attention sur le fait que évidemment c'est jauge réduite pour cette mission Roosevelt et que ça sera donc vendredi 14 octobre à 18h et samedi 15 octobre à 11h et 16h30. Ça se passe à Aubagne, mais il faut absolument réserver au prix du théâtre Comédia au 04 42 18 19 88 si vous voulez participer à la mission Roosevelt. Sinon, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous asseoir dans les fauteuils en tout cas. On arrive au terme de cette émission, on va écouter les beaux parleurs, ces crieurs de rue qui annoncent les manifestations un peu de partout dans les rues là, de chaque ville de Small is Beautiful, mais qui offrent aussi de temps en temps des poèmes, tout ça. On écoute leur chronique et on se dit au revoir juste après.
Proverbe à titre !
Des beaux parleurs.
Aïe.
Titre ? Reprendre son souffle. À toi, Laurent.
Mieux vaut reprendre son souffle que perdre sa laine.
Le mot du fictionnaire.
Des beaux parleurs.
Non ! De Jean-Georges Tartar !
Progrès, truc réac. Avant, on nettoyait les rues. Maintenant, je vois qu'il faut qu'elles soient en train d'être nettoyées et parfumées. Avant, la rue sentait la merde. Maintenant, elle pue les chiottes. C'est le progrès.
Oh, l'agenda du jour.
C'est du lendemain.
Jeudi 13 octobre, de 16h30 à 23h, troisième jour d'occupation spectaculaire de la gare Saint-Charles. Venez participer à l'assaut final. Rendez-vous à 18h sur l'escalier monumental de la gare pour un mondial de flash rue. Plan d'attaque et stratégie disponible sur www.lieupublic.com ou adressez-vous directement à nos agents de liaison au QG, place des Marseillais, à Marseille, vous l'aurez compris.
Les beaux parleurs.
Demain, jeudi 14 octobre, même heure, même onde, nous serons en compagnie de la Horde de Napéron, des Français de Lyon et des Slovènes de Košice qui présenteront le troisième opus de leur projet Step by Step à Aubagne le vendredi 14 et samedi 15 octobre à 20h30. Aubagne qui sera à partir de vendredi la troisième étape de Small is Beautiful dans le coin. « L'art dans la ville sur le 888, vous le savez certainement aussi, c'est Evento à Bordeaux, deux rendez-vous tous les matins sur les 3-8 à 9h30 et 11h jusqu'au 18 octobre. Inventaire des inventés et l'éventail d'Evento. Toutes les infos détaillées, des sons et des émissions en écoute à la carte sur radiogrenouille.com. Merci à Sébastien Gély qui était à la technique ce soir et bonne soirée à toutes et à tous.